7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, reportage aux États-Unis, le combat des lycéens contre les armes à feu.
J'étais en cours de maths et tout d'un coup, on a entendu deux coups très forts. Ça nous a surpris, mais on a tous replongé la tête dans nos bouquins. Puis l'alarme à incendie s'est déclenchée, on s'est regardé et là, on a entendu les rafales de coups de feu. On s'est caché derrière nos bureaux, on s'est tenu les mains. Moi, je me suis mise à prier, à voix haute, même si on n'avait pas le droit de parler, mais c'est comme ça que j'ai été élevée.
And you know, the sounds just get louder and the sounds just get louder and louder, and it was.
Les bruits étaient de plus en plus forts, et puis on a entendu les cris dans les couloirs, à l'étage, au rez-de-chaussée.
Just the screaming and the sounds of gunshots.
Ces cris et les rafales de balles qui criblent les murs, je les entends encore. On a été évacués et on s'est retrouvés à marcher au milieu des douilles de balles en bas, là où nos camarades et nos profs étaient allongés sur le sol, morts.
Millie Hushing a 17 ans. Elle est lycéenne au lycée Stoneman Douglas de Parkland, en Floride. C'est là que le 14 février dernier, Nicolas Cruz, ancien élève, abat 17 personnes. Une nouvelle tuerie de masse, encore, depuis Columbine, en 1999. Virginia Tech, 33 morts. Sandy Hook, 27 morts. Orlando, 49 morts. Las Vegas, 58 morts. Sutherland Springs, 27 morts. Et tout dernièrement, Santa Fe, 10 morts le 18 mai. Souvent, après l'émotion, plus rien, l'oubli. Mais Parkland est entré dans l'histoire. Dès le lendemain du massacre, des lycéens survivants et charismatiques jurent cette fois d'en finir avec la violence qui ravage les États-Unis à cause des armes à feu. 33 000 morts par an. Des tueries de masse aux violences urbaines, des suicides aux homicides. Comme une traînée de poudre, des millions d'autres Américains rejoignent la contestation. Plus jamais ça. Le mouvement Never Again, qui s'appelle maintenant March for Our Lives, marcher pour sauver nos vies, dénonce la culture des armes à feu et s'attaque au puissant lobby des armes, la National Rifle Association. Les lycéens, bientôt en âge de voter, promettent de bousculer l'équilibre politique lors des élections de mi-mandat, le 6 novembre prochain. Alors qu'est-ce qui fait la force de ces adolescents? Peuvent-ils réussir? Dans ce reportage, vous allez entendre presque exclusivement des jeunes de moins de 18 ans, c'est-à-dire des enfants. Bonjour Cerise Maréchaux.
Bonjour Emmanuel.
Votre enquête commence en Caroline du Nord.
Oui, je me suis rendue dans la ville de Raleigh à Sanderson High School, un lycée qui venait d'être secoué par un appel anonyme et des menaces contre l'établissement. Et c'était une semaine après le drame de Santa Fe au Texas qui a fait 10 morts. Ce jour-là, les lycéens organisaient une rencontre publique entre les citoyens et les élus locaux pour débattre de la violence par arme à feu. Des événements comme ça, il y en a eu des centaines dans tout le pays depuis la fusillade de Parkland en Floride. Partons à Sanderson High School, un lycée américain typique avec ses murs de briques, ses larges couloirs, ses trophées de sport, ses rangées de casiers, un lycée aussi archi sécurisé. Le débat se prépare.
Vous vous appelez comment ?
My name is Véronique.
Je m'appelle Véronique.
Vous avez quel âge ?
I am 18 years old. J'ai 18 ans.
Vous êtes lycéenne dans ce lycée ?
Yes, I'm a senior. Oui, je suis en terminale.
Donc votre responsabilité ce soir, c'est d'accueillir les gens ?
Guide the legislators into the building, into. Oui, et guider les législateurs dans le lycée et jusqu'à leur siège.
Et ce soir seront présents des policiers, des représentants politiques démocrates, des républicains. À qui voudriez-vous vous adresser en priorité ?
Je ne sais pas. Chaque voix compte. Si on ne se parle pas, on n'y arrivera pas. C'est ce que nous faisons pour protéger nos petits frères et nos petites sœurs et nous aussi. Ce qui m'inspire le plus, c'est que nous sommes jeunes. On n'a même pas encore affronté le monde, mais on est tellement unis par ce combat que nous pouvons faire une différence. Que des législateurs deux fois plus vieux que nous viennent ici et nous écoutent, ça me touche beaucoup.
I lost a lot of family to this.
J'ai perdu tellement de proches à cause de la violence. Si on ne fait rien, d'autres personnes vont mourir. Si on n'arrive pas à se parler, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Nous devons trouver une solution.
Ce
n'est pas nouveau. Ça fait des années que le problème existe. Et maintenant, c'est tous les jours.
Even the other day, a middle school kid was able to walk into his classroom with a gun.
Encore récemment, un élève de collège a pu entrer dans sa classe avec un flingue. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu mettre la main dessus et sans que personne ne voit rien, ne dise rien? C'est ce qui me terrifie le plus. Si un môme de 12 ans ou même un élève de primaire peut mettre la main sur une arme, vous imaginez le danger dans lequel nous vivons?
Vous essuyez les larmes avec votre t-shirt.
It's already wet. I just came from practice.
Oh, il était déjà mouillé. Je reviens du cours de sport là.
This is a measure to end.
Ce qu'on fait là, c'est une mesure concrète. Si personne ne prend l'initiative, rien ne bougera.
Comment justement allez-vous réussir à garder cet élan?
On va tout faire pour que ce qui arrive ne tombe pas dans l'oubli. Car c'est ce qui arrive trop souvent. Même la tuerie de Columbine, ma petite sœur, qui a 16 ans, elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé.
Columbine, c'était il y a presque 20 ans.
Yes.
Oui, 2 ans avant ma naissance. Il n'y a aucune raison d'oublier un tel drame et de ne pas en parler comme si le problème n'existait pas. Dans les reportages à la télé, sur CNN ou Fox News, ils disent toujours que le gamin a des problèmes mentaux. En tout cas, on charge tout sur le dos des problèmes psychologiques. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je pense sincèrement que le nœud du problème n'est pas la santé mentale. C'est tout un système. Les gens à l'étranger, ils observent la violence en Amérique et ils se disent « Oh, ben c'est l'Amérique, quoi ». Soyons francs, on adore la guerre ici. On vit de la guerre, on fait du profit grâce à la guerre. Il y a une vraie culture des armes à feu ici qui nous colle à la peau. On dépense tellement d'argent pour la guerre, pour les armes à feu, qu'on en vient à penser que les armes, c'est un droit. On a le droit de les posséder, de les utiliser. La NRA, plus ils arrosent le pays avec leurs armes, moins on sait où elles se trouvent et plus nous, nous sommes en danger. Tout ça pour qu'ils puissent s'enrichir.
Hello everyone. I invite you to all take your seats so we can begin.
Cerise Maréchaux, cette lycéenne américaine qu'on vient d'entendre, à 18 ans, elle n'a pas peur de défier le lobby des armes devant le monde entier.
Non, même pas peur. Exactement comme avec cet autre lycéen, Cameron Caskey, un des survivants de Parkland et leader du mouvement, qui était sur le plateau de CNN une semaine après le massacre de Parkland. Alors voici ce qu'un gamin de 17 ans demande les yeux dans les yeux au sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, l'un des hommes politiques les plus financés par le lobby des armes.
Senator Rubio, can you tell me right now that you will not accept a single donation from the NRA in the future?
Lycéen demande au sénateur, sénateur Rubio, pouvez-vous me dire maintenant que vous n'accepterez plus une seule donation de la NRA? Et Marco Rubio hésite, esquive et reconnaît finalement que oui, il continuera de toucher de l'argent de la NRA car ça va dans le sens des promesses faites à ses électeurs.
Ces images cerises de télévision ont fait le tour du monde et c'est un des moments fondateurs du mouvement anti-armes.
Et qui a galvanisé des centaines de milliers d'autres adolescents comme Juliana Carrasco et Sabina Arcila. Elles ont 15 et 16 ans, elles sont lycéennes à Miami. Elles ont fondé leur propre branche du mouvement anti-armes, Students Demand Action, Miami, et qui existe aujourd'hui dans tous les États-Unis. Elles prennent la parole dans des maisons de quartier, des églises, des écoles, sur les traces des lycéens héros de la lutte.
J'ai rencontré Emma Gonzalez, David Hogg, Cameron Caskey, Jacqueline Corinne. En fait, j'étais dans le même hôtel.
Vous en parlez avec de l'émotion. On a l'impression que vous avez rencontré des rockstars.
It's crazy because when I saw them. Je sais, c'est fou. Quand on les a vus, ma sœur et moi, mon cœur s'est mis à battre super fort.
They're my age. They're just.
Ils ont mon âge, c'est des ados, mais ils ont lancé un mouvement tellement puissant et ils sont en train de devenir des leaders.
And also knowing that they went through such a horrific.
Et puis, ils ont vécu un drame tellement horrible. Ils sont tellement forts.
Ils sont devenus vos héros.
I guess they are my heroes. I mean, I remember seeing Emma Gonzalez.
Oui, je pense qu'ils sont mes héros. Je me souviens du discours de Emma Gonzalez quand elle n'arrêtait pas de clamer « Ça suffit vos conneries », en parlant de toutes ces fausses excuses censées justifier que rien ne bouge sur les armes. Ça m'a complètement fascinée. J'étais prête à rejoindre la lutte. Their gilded house and senate seats funded by the NRA telling us nothing could have ever been done to prevent this. We call BS. They say that no laws could have been able to prevent the hundreds of senseless tragedies that have occurred. We call BS. That us kids don't know what we're talking about, that we're too young to understand how the government works. We call BS.
Elle ressemble à quoi, Emma Gonzalez?
Well, she's 18.
Elle a 18 ans, elle est assez petite, elle a le crâne rasé.
Elle a les yeux clairs, la peau blanche.
Je peux vous montrer une photo. Là, c'est elle avec David Hogg.
Oui, elle a un visage assez charismatique.
She's basically become the face of this movement.
Oui, en fait, elle est devenue le visage du mouvement.
So again, I was there at the March for Our Lives, and
j'étais à Washington pour la grande manif March for Our Lives. Il y a eu ce moment incroyable. À la tribune, elle s'est mise à parler des victimes, des personnes tuées à Parkland. Elle a prononcé leurs noms.
And then she, all of a sudden, just got quiet.
Et soudain, elle s'est tue. Elle n'a plus prononcé un mot. Elle s'est mise à pleurer. Le silence était absolu dans toute l'assemblée.
And then at the end, she said,
quand elle a repris la parole, elle a dit 6 minutes 20 secondes. C'est ce qui a suffi aux tueurs pour massacrer 17 personnes et pour en blesser plein d'autres au lycée Marjorie Stoneman Douglas. C'était tellement puissant. Dans la foule, les gens se sont mis à pleurer. Ils ont ressenti la douleur à travers ce silence. Ce silence tellement pénétrant.
Oui, pour moi, il y a eu un autre moment super fort. C'est quand, pendant son discours, elle a sorti les notes de son cours de politique sur le gouvernement américain. Parce que, évidemment, on peut vite idéaliser ce groupe de jeunes leaders en les voyant passer à la télé et tout. Mais en voyant Emma Gonzalez brandir les notes de ce cours, que j'étudie aussi, je me suis dit « Waouh, je sais ce qu'elle révise ». Et j'ai réalisé qu'elle était comme moi, en fait. Et donc que moi aussi, j'étais capable de faire ce qu'elle fait, de me battre. Et puis, si on examine l'histoire des États-Unis, tellement de fois la jeunesse s'est rebellée pour défier l'injustice et agir, créer du changement. Dans les années 50, sans le combat des lycéens, nos écoles seraient encore ségrégées. Et aussi, l'arrêt Tinkerville des moines, ce sont des étudiants qui sont allés jusqu'à la Cour suprême pour obtenir l'amendement sur la liberté d'expression. Ce sont des jeunes qui ont combattu la guerre du Vietnam. Encore des jeunes qui ont obtenu le rajout d'un 26e amendement pour abaisser l'âge légal du vote à 18 ans.
This was all accomplished by students.
Tout ça a été accompli par des lycéens, des étudiants à la fac. Donc nous aussi pouvons faire beaucoup. Une telle passion nous habite. On a juste besoin d'une étincelle pour embraser un grand mouvement.
Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça.
Nous demandons un changement. On s'est tous retrouvés face à un fusil mitrailleur. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus personne qui prenne une balle pour rien.
On doit prendre en considération que ça n'est pas seulement un problème de santé mentale. Il n'aurait pas fait de mal à autant d'étudiants avec un couteau.
C'est une nouvelle ère. Une page a été tournée. Ces jeunes se mobilisent. Je me bats pour mes amis, pour les étudiants, les familles qui ont perdu un proche. Tout ça, c'est fini. On en a marre. On en a assez de souffrir. Nous voulons la justice. Nous n'allons pas nous taire. Ce qui s'est passé, ça a réveillé nos consciences. C'est le début d'une longue lutte. On va se battre, on va crier.
Mais si Trump ne fait rien, si personne ne fait rien, alors nous, on fera bouger les choses. Éliminer toutes les lois qui autorisent les armes. Seuls les policiers et les militaires devraient pouvoir en porter. C'est tout.
Alors, Cerise Maréchaux, quelle victoire les lycéens américains ont-ils déjà remporté concrètement ?
Alors, 3 semaines après la tuerie de Parkland, le gouverneur de Floride, Rick Scott, un républicain très proche de la NRA, a remonté l'âge légal pour acheter une arme à feu de 18 à 21 ans. Et les bump stocks ont été interdits. Les bump stocks, ce sont des accessoires qui permettent de transformer une arme semi-automatique en arme automatique, donc de tirer en rafale, comme à la guerre. Donc ces accessoires, aujourd'hui, sont interdits. Ce sont les premières mesures de contrôle des armes en Floride depuis 20 ans, dans un État qui détient un record d'armes par habitant grâce à des lois hyper laxistes sur les armes, puisque le lobby de la NRA contrôle la politique locale d'une main de fer.
Et la NRA a accepté ces réformes sans broncher ?
Non, ses membres sont furieux. Ils n'ont d'ailleurs pas hésité à traiter les lycéens de Parkland de comédiens, de pions manipulés, jusqu'à nier leur statut de survivants de la tuerie. L'image de la NRA en a pris un sacré coup. Des grandes enseignes commerciales ont pris leur distance avec ce lobby populaire et ont même cessé la vente de certaines armes lourdes. Cependant, Emmanuel, la NRA demeure très puissante et le gouverneur de Floride a aussi pris soin de rassurer son maître, car les mesures décidées après la tuerie de Parkland incluent la possibilité pour le personnel des écoles d'être armé dans les établissements. Et ça, ça va dans le sens du toujours oui, plus d'armes.
Bien sûr. En tout cas, ce qui est nouveau avec le mouvement des lycéens, c'est qu'enfin un débat national sur les armes à feu a lieu, alors que jusque-là, c'était prière et paralysie depuis à peu près 30 ans.
Exactement. Les adolescents du mouvement ont imposé ce thème dans la campagne électorale pour les élections de mi-mandat. Une des raisons de leur impact, c'est que pour la première fois, ce sont des survivants qui sont à la tribune et non plus les parents des enfants tués. On a vu des blessures sur leur visage, on les a vus vomir de dégoût et de douleur en plein discours. C'était viscéral. Mais les leaders du mouvement ont aussi de vrais talents de tribun et maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux. Un point important, Emmanuel, c'est qu'ils sont quasi tous blancs ou assimilés comme tels et viennent d'un milieu privilégié. Donc avec Parkland, c'est un peu l'Amérique parfaite qui a été touché et ça a choqué tout le pays.
Au risque donc que tous les jeunes ne se retrouvent pas forcément dans leur mouvement ?
Oui, comme Zion Cooper qui a 14 ans et Jeremiah Johnson, 16 ans. Ce sont deux jeunes noirs de Miami en Floride. Je les ai rencontrés lors d'un débat sur la violence des armes telle qu'elle est vécue dans les quartiers défavorisés.
On est là pour entretenir le mouvement. On a voyagé jusqu'à Washington D.C. pour participer à la grande manif contre les armes à feu, parce qu'on avait le sentiment de ne pas vraiment être représenté. C'est surtout cette phrase qui revenait tout le temps. Je ne pensais pas que ça nous arriverait un jour.
Qui disait « on ne pensait pas que ça pouvait nous arriver »
David Hogg et Emma Gonzalez.
David Hogg et Emma Gonzalez, ils ont été choqués que ce drame frappe leur quartier. Parkland a été récemment élu communauté la plus sûre de Floride, ou même des États-Unis. Mais nous, on sait que ça peut arriver. Ce qui s'est passé à Parkland, c'est vraiment très triste. Mais nous, des drames avec les armes, on en vit tous les jours dans nos quartiers.
Donc quand on est arrivé là-bas, on a essayé de délivrer notre message parce que sinon la manif tournait surtout autour des jeunes de Parkland. Donc on a fait entendre nos voix pour dire à quel point la violence des armes à feu nous affecte, surtout dans mon quartier, à Miami Gardens. D'après les statistiques, un gamin a peut-être bien été tué il y a juste quelques minutes là.
Dans votre quartier ?
Les deux, dans notre quartier et dans le pays.
Zion et Jeremiah, quand vous dites « nous », nous voulions que notre message soit entendu, qui est ce « nous » ?
The minority community of black people and Hispanic people.
Nous, les minorités noires, hispaniques, qui vivons dans les banlieues pauvres.
Moi, je connais plein de copains qui ont été tués par balles, même des membres de ma famille. Mon ancienne voisine, son fils vient de mourir d'une balle dans la tête. Peut-être qu'il devait de l'argent.
Sans arrêt, des innocents meurent parce que les gens font n'importe quoi avec leurs armes. L'autre jour, dans le bus, une fille nous racontait que son petit frère a été tué, alors qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire. Une histoire de drogue, sûrement. Bref, il y a eu un règlement de compte et il a pris une balle perdue. Parfois, des gens sont abattus parce que les tueurs pensent, par erreur, que c'est leur cible. Toi, tu ne connais pas la personne, mais si tu lui ressembles vaguement, il passe en voiture à côté de toi, baisse leur vitre et boum ! Et ils vérifient plus tard si c'était leur cible. Quand une voiture passe près de moi, un peu lentement, mon cœur se met à cogner dans ma poitrine parce que on ne sait jamais. Mais il y a vraiment trop d'armes dans la rue. Pour la fête de l'indépendance, le 4 juillet, les gens célèbrent en tirant avec des pistolets. Des feux d'artifice ? Non, des coups de feu. Tellement de monde possède des armes à feu et tire à tout va juste pour faire la fête. C'est dangereux.
When was the last time you felt safe? Say it on the mic.
Never, because all of these gun violence, and we lose people every single day, and I
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI, reportage, enquête aux États-Unis sur le combat des lycéens contre les armes à feu. Cerise Maréchaux, il y a aux États-Unis plus de 300 millions d'armes à feu, donc plus d'armes que d'habitants. Mmh. Alors dites-nous comment les lycéens militent concrètement maintenant pour affaiblir le lobby des armes, c'est-à-dire la NRA.
Alors écoutons Hannah Siegel, 17 ans. Elle a fondé une coalition jeunesse contre la violence des armes, rassemblant une douzaine de lycées. Je l'ai rencontrée à Orlando, en Floride, lors d'une conférence sur les liens entre les armes, l'argent et la politique. Elle animait un atelier et indiquait à des adultes comment rejoindre la lutte.
Il y a 1 million de manières de s'impliquer dans le mouvement contre la violence par arme à feu. L'Amérique n'a pas un problème d'armes, mais plusieurs. Lequel coûte le plus pour vous? Bien sûr, dans ce groupe, les tueries de masse, notamment à l'école, sont un souci majeur. Mais on sait aussi que les personnes souffrant de violences conjugales ou sous emprise d'une relation toxique courent un risque beaucoup plus grand de mourir s'il y a une arme à feu dans la maison. Il y a aussi le trafic, les homicides, les suicides. Emparez-vous de celui qui vous touche le plus. Notre action principale, c'est une campagne auprès des lycéens pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. En Floride, on peut se préinscrire dès l'âge de 16 ans et on reçoit sa carte d'électeur à 18 ans. Avec l'élection qui arrive en novembre, on met le paquet et on ne va rien lâcher. On sait que la génération Y vote très peu. Souvent, les jeunes adultes se mettent à voter après 25 ans. Ce taux de participation ne suffit pas.
Autour de 20%, je crois.
Oui, à l'échelle du pays, c'est ça.
Selon vous, Hannah, ça fait des années que rien ne bouge pour vraiment contrôler les armes à feu. Et pourquoi aujourd'hui ça changerait ?
Mais oui, je pense que la NRA peut être affaiblie. La NRA ne représente pas la majorité des habitants de Floride, loin de là. Je connais des détenteurs d'armes à feu qui ne veulent rien avoir à faire avec la NRA. La seule raison pour laquelle la NRA a tant de pouvoir, c'est parce que nous, les Américains, nous sommes nuls en démocratie. On ne manifeste pas assez, on ne vote pas assez, on ne s'implique pas assez. Mais si nous parvenons à revitaliser notre goût pour la vie civique, le débat, l'engagement, non seulement nous irons mieux en tant que société, mais ces groupes radicaux comme la NRA qui dominent et bloquent le dialogue alors qu'ils sont à la marge vont perdre de leur influence. Parce qu'en nombre, ils sont plus faibles que nous.
Aujourd'hui, la priorité, c'est d'appeler les représentants politiques, de leur écrire. C'est le lobbying, comme ça, presque un petit peu souterrain, qui est important. Plus que des grandes manifestations avec énormément de pouvoir émotionnel, comme on a vu ces derniers mois avec les grandes manifestations, les grandes marches, March for Our Lives.
I do think that some of the most important things we can do are not in physical protest.
C'est vrai que les actions les plus efficaces que nous pouvons mener aujourd'hui ne sont pas nécessairement les manifestations, mais plutôt la sensibilisation des gens et surtout tout faire pour qu'ils votent en novembre. Cependant, je pense que la manifestation March for Our Lives a eu un rôle énorme pour tout le pays. Ça nous a permis de déverser les torrents de chagrin et de colère dont nous souffrons depuis des années. En tout cas, nous, les lycéens, qui avons grandi dans cette ère de tuerie de masse. C'est vraiment notre combat. David Hogg et Cameron Kasky nous ont appelé la génération tuerie de masse. C'est vrai. Columbine a eu lieu juste avant ma naissance. J'ai vécu mon premier état d'urgence à l'école quand j'avais 8 ans. On s'est retrouvés bloqués à l'intérieur parce qu'un tireur se baladait dans le centre-ville d'Orlando. Ça nous a marqués. Et puis je suis lesbienne, très engagée dans la communauté LGBT ici à Orlando. Le massacre dans la boîte de nuit Pulse il y a 2 ans nous a vraiment brisés. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'on est nombreux à militer contre les armes à feu. On a aussi été très inspirés par le mouvement Black Lives Matter et d'autres groupes de résistance plus récents. Ça fait longtemps que je me sens concernée par différentes causes et que je milite. Mais ce mouvement m'a montré exactement ce qu'on peut faire.
La participation politique, c'est la clé pour affaiblir le lobby des armes, c'est-à-dire la National Rifle Association. Cerise Maréchaux, vous êtes allée à Parkland rencontrer un lycéen qui a trouvé aussi une autre manière d'encourager les Américains à voter. Rappelons-le, Parkland, c'est le lieu de la fameuse tuerie de février dernier, 17 morts.
Oui, Zach Hichman, 16 ans, il a survécu à cette tuerie. On avait rendez-vous à la sortie du lycée, devenu un bunker avec détecteur d'armes bien sûr, mais maintenant aussi des voitures de police, des badges magnétiques pour chaque élève qui porte aussi tous un sac à dos en plastique transparent, dans une ambiance assez tendue. Zach a créé un site internet pour noter les personnalités politiques en fonction de leur position sur les armes, afin d'aider les électeurs à choisir.
Aucune personnalité politique n'a pu ignorer la tuerie de Marjorie Stoneman Douglas. Chacun a d'une manière ou d'une autre fait une déclaration ou inscrit un projet de réforme à son programme.
Et qu'est-ce qu'il propose ?
Eh bien, ceux qui sont pour le contrôle des armes, bien sûr, ils réclament l'éradication des armes d'assaut, ainsi que l'élévation de l'âge minimum pour acheter une arme de 18 à 21 ans, l'interdiction des bump stocks, ces accessoires qui permettent de transformer un fusil semi-automatique en fusil automatique. Ils demandent de bannir aussi les chargeurs de grande capacité, etc. Donc, comme le lobby des armes NRA qui note les politiques depuis longtemps, nous aussi, Adam et moi, on a décidé de faire comme eux, mais selon nos critères, pour que les électeurs sachent pour qui voter. En gros, les politiques qui défendent le contrôle des armes à feu, on leur met un A. S'ils sont contre, c'est un F. Ceux qui ont un F, c'est parce qu'ils touchent beaucoup d'argent de la NRA, 10 000 dollars et plus, et bien sûr veulent que les armes d'assaut soient accessibles à tous. Après, il y a des degrés. En Floride, on trouve de tout. Par exemple, on a découvert que Brian Mass, un député républicain, est passé de F à B parce qu'il a complètement changé sa position sur les armes après la tuerie de Parkland. Il ne touche plus d'argent de la NRA et il soutient publiquement le contrôle des armes à feu.
Et lui, il est une exception ou est-ce qu'il est l'arbre qui cache la forêt ?
Il y a lui et quelques autres. Ils incarnent le début d'un changement. Et je pense que de plus en plus de républicains vont passer de F à A. En tout cas, c'est notre but.
Alors, grâce au mouvement des lycéens, des Américains adultes sont allés rendre leurs armes au shérif local. C'est vrai cela, Cerise Maréchaux ?
C'est bien vrai. C'est difficile d'en évaluer le nombre, mais c'est arrivé dans tout le pays. Souvent, ils rapportent des armes lourdes proches de celles utilisées dans l'armée, des AR-15, des AK-47, et demandent même parfois à ce que ces armes soient détruites. Alors, au-delà de ces actes symboliques, ce qui change, c'est que pour de plus en plus d'Américains porteurs d'armes, le deuxième amendement de la Constitution ne doit plus signifier zéro contrôle.
Alors, le deuxième amendement, c'est l'arme fatale qui est brandie systématiquement par la NRA et les pro-armes les plus extrémistes comme un droit sacré, intouchable, inviolable pour bloquer toute réforme. Et ce deuxième amendement est au cœur du débat. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement, ce deuxième amendement ?
C'est un texte très court, en fait, 27 mots seulement, au début de la Constitution américaine. Il dit... Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Et ce texte a été rédigé en 1791, donc il y a plus de 200 ans, dans une nation américaine fragile, juste après la guerre de libération contre la couronne anglaise, pour garantir au peuple le droit de se protéger en cas de tyrannie du gouvernement. Et c'était aussi pour assurer les citoyens dans un contexte d'insécurité face aux populations amérindiennes et au risque de soulèvement d'esclaves.
Et ce deuxième amendement, donc les pro-armes, y tiennent toujours dur comme fer ?
Dur comme fer, et je l'ai constaté dans un magasin d'armes de Miami, Johnson Firearms, où l'AR-15, cette arme d'assaut utilisée dans la majorité des tueries de masse récentes, figure en tête de gondole, ça fait très bizarre, et même parmi les ventes les plus populaires du magasin.
Là, vous avez un Glock, modèle 19. 9 mm basique, capacité du chargeur 15 balles, grande fiabilité et simplicité.
Ça, c'est une arme que vous vendez beaucoup ?
Oui.
Ça, c'est un fusil AK-47 avec un canon plus grand et sans crosse.
C'est quoi ça?
Ça, c'est un AR-15 calibre 22 pour des petites balles. C'est super sympa à utiliser, pas cher, ultra léger. Ça va faire un bruit un peu plus fort, mais il n'y a rien à craindre.
Moi, ça me fait peur. Comment vous vous appelez?
Raoul.
Vous avez quel âge?
J'ai 34 ans.
Vous êtes un client ici à Johnson's Firearm?
Yes, I am. I'm a client. Oui, tout à fait.
Vous signez une livraison de la poste.
This is the lower part of an AR-15. C'est la partie inférieure d'un AR-15. This is what allegedly is killing our children. D'après ce qu'on entend, voilà ce qui tue nos enfants à chaque fois qu'il y a une tuerie de masse dans une école ou ailleurs, mais non, c'est faux.
Qu'est-ce qui vous dérange exactement?
Ce qui me dérange, c'est qu'on dise que cette arme sert à tuer les gens. Une arme, c'est un objet. Bientôt, on va interdire les voitures parce qu'il y a des gens qui se font renverser.
Vous dites que le problème, ce sont les personnes, pas les armes?
Oui, les gens, le nombre de problèmes mentaux que nous avons ici, c'est ça le problème.
Vous possédez un fusil AR-15?
J'en ai 7.
7?
Oui, 7, et c'est mon droit de les avoir. Je les achète entièrement construits. Ou je les achète en pièces détachées et je les monte moi-même. C'est mon loisir, ça me détend.
Que pensez-vous du mouvement actuel qui est né après la dernière tuerie de Parkland?
It's good. I support them. C'est bien, je les soutiens. Ils veulent réformer les lois sur l'accès aux armes. Je suis d'accord. Cette loi qui a remonté l'âge de 18 à 21 ans pour en acheter une, ça aurait dû passer il y a longtemps. À 18 ans, on n'est pas prêt. On n'a même pas le droit de boire de l'alcool.
Donc ça, c'est la loi qui vient d'être passée par le gouverneur de Floride, Rick Scott.
Oui, c'est tout récent. Et je le répète, ça aurait dû être voté il y a longtemps. Mais nous sommes une société qui apprend par les coups. Quant aux enquêtes de vérification, oui, elles devraient être plus... il devrait y avoir plus de moyens pour davantage examiner les antécédents psychologiques. Et tenez, un test urinaire pourrait être obligatoire chaque année pour dépister l'usage de drogue. Pourquoi pas? Le permis de port d'armes pourrait devenir obligatoire aussi, et l'entraînement.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, et si tout le monde s'entraîne et comprend mieux les armes à feu, les esprits seront plus ouverts. Vous avez ces outils, ces jouets, mais bon, si vous ne vous entraînez pas...
Vous avez dit des jouets?
Ah oui, moi je les appelle des jouets.
Mais la loi n'oblige pas une personne qui vient ici acheter un fusil AR-15 à s'entraîner et à passer un permis et un examen.
Non, pour l'entraînement, chacun fait ce qu'il veut.
Ça veut dire que vous êtes d'accord avec certaines revendications des élèves?
Ils expriment leur opinion, c'est leur droit, de la même façon que nous avons le droit de porter ces armes-là. N'enfreignez pas nos droits, parce que ce qui se passe, ce n'est pas notre faute.
Mais qu'est-ce que vous entendez par enfreindre vos droits?
C'est ce qu'ils essayent de faire en voulant nous interdire certains accessoires. Les chargeurs grande capacité, par exemple. Oh, on n'a pas besoin de ça, ils disent. Vous peut-être, mais nous, si.
Pourquoi vous auriez besoin d'un magazine qui permet de tirer en rafale?
C'est plus fun, on s'amuse plus longtemps au stand de tir. Un chargeur de 10, faut le changer souvent, alors qu'avec un chargeur de 30, on peut tirer plus longtemps. Et puis en cas de cambriolage aussi, un braquage de voiture ou un tueur en liberté qui visiblement est notre problème en ce moment. Ou quand Daesh débarque ici et veut faire tout exploser ou foncer sur les gens avec un camion, comme en France, là, ou en Italie, ou à Londres, peu importe où. Un AR-15 avec un chargeur grande capacité, ça me permettrait de me charger du tueur en attendant l'arrivée de renfort, à moins que d'ailleurs ce ne soit moi tout simplement qui l'élimine. Je préfère ça plutôt que de trouver un bout de bois pour me protéger face à quelqu'un qui, lui, de toute façon, aura une arme à feu.
Et est-ce que pouvoir tirer en rafale, c'est nécessaire pour l'autodéfense?
Yes and no. Oui et non, je ne sais pas quelle artillerie l'autre va avoir, donc je veux m'assurer que je suis plus armé que lui.
Mais vous pensez pas qu'avoir une arme plus petite et plus précise serait plus efficace?
Ça, je sais pas, j'en sais rien. Je vous dis, je sais pas quel arsenal il va sortir, lui.
Mais c'est vrai que de ma perspective d'européenne, je vois que c'est un peu une spirale, un cercle vicieux.
It could be. Peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, le droit que ces jeunes font valoir en s'exprimant, en se rassemblant, ce droit, il a été protégé grâce à des gens avec des armes. Vous voyez comment la roue tourne ? On vous a protégé pour que vous jouissiez de cette liberté. Alors pourquoi voulez-vous nous priver de nos droits à nous ?
On ne veut pas abroger le deuxième amendement. On ne veut pas abolir ce droit, pas du tout. Les gens confondent tout. On est pour le deuxième amendement. On sait pourquoi nos pères fondateurs l'ont écrit. Mais il faut le réformer. Il a été écrit il y a tellement longtemps.
Les types de guns qu'ils avaient sont tellement différents que...
Et les armes qu'ils utilisaient à l'époque étaient tellement différentes de celles d'aujourd'hui. À l'époque, il y a 200 ans, ces armes étaient très longues à recharger, alors qu'aujourd'hui, on peut tirer 45 balles en une minute. Il faut réguler ça, parce que le monde change, la société change, la technologie change.
Un autre argument important en faveur d'une réforme, c'est que le deuxième amendement conditionne le port d'armes à l'existence d'une milice bien organisée et régulée. Eh bien, une milice bien régulée, ce n'est pas un garçon de 19 ans qui peut mettre la main légalement sur un fusil AR-15. Cela défie toute raison. Donc même si beaucoup de monde brandit le deuxième amendement contre notre mouvement, en fait, l'idée principale que le deuxième amendement et notre constitution défendent, c'est d'assurer la sécurité du peuple. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas plus en sécurité avec les armes à feu et les statistiques le prouvent. C'est un fait, plus de gens meurent à cause de cette obsession du deuxième amendement. Donc ça va à l'encontre de son objectif, donc il faut le réinterpréter.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI, reportage de Cerise Maréchaux aux États-Unis, le combat des lycéens contre les armes à feu. Cerise Maréchaux, donc si le deuxième amendement peut et doit être réformé, comme ils le disent, comme le demandent les lycéens, pourquoi tant de résistance dans le fond ?
C'est ce que va nous expliquer Mary Ann Franks. Elle est professeure de droit à l'université de Miami.
For a very long time, and most historians would agree about this, that there really wasn't any debate.
Pendant très longtemps, et la majorité des historiens sont d'accord sur ce point, il n'y avait pas de controverse sur le sens du deuxième amendement.
It was actually not until the late 1960s and the 1970s.
C'est seulement à partir du tournant des années 60-70 que la NRA et quelques autres groupes puissants, tous du côté des fabricants et des vendeurs d'armes, ont commencé à promouvoir l'idée que le deuxième amendement voulait dire le droit individuel à l'autodéfense. Et la NRA a été tellement efficace dans la mise en avant de l'autodéfense privée qu'arrivée dans les années 80-90, de très nombreux Américains étaient convaincus que c'était ça le sens du deuxième amendement, quand bien même ni le texte de la Constitution ni les événements historiques n'attestent cela. Mais ce qui est très dangereux avec une telle fétichisation des armes à feu, c'est que les porteurs d'armes sont en capacité de faire du mal à autrui d'une façon radicale et irréversible. Il est très important d'identifier qui défend cette idée d'autodéfense. La majorité sont des hommes blancs et en tout cas, en ce qui concerne les dirigeants de la NRA, des hommes blancs riches. En d'autres mots, ce sont les personnes jouissant de tous les privilèges sociaux qui sont convaincus qu'ils sont en fait les victimes, qu'ils sont constamment attaqués. Selon moi, le sens derrière tout ça, ce que l'arme à feu représente pour eux, c'est une manière de riposter contre l'idée qu'ils sont en train de devenir obsolète, que le fait d'être blanc et d'être un homme ne sont plus systématiquement considérés comme des valeurs en soi. Ce qui se passe dans les années 70, c'est une réaction à l'intégration raciale, une réaction aux droits civiques, aux droits des femmes, aux principes d'égalité en général, et ces personnes vivent ces évolutions comme une régression. Comment ça ? J'étais au centre de l'univers, mon mode de vie et mon autorité étaient incontestés, et tout ça par avolo. Donc même si les hommes blancs demeurent le groupe social le plus en sécurité aux États-Unis, ils souffrent de ce complexe de victimisation et sont convaincus d'être en permanence en état de siège. L'arme à feu est devenue pour eux un symbole pour dire non, c'est nous qui commandons, nous qui avons le contrôle sur cette culture, sur notre destin. Sur un plan global, les femmes sont moins victimes de ces crimes par balle que les hommes, en tout cas de crimes officiellement rapportés à la police. Par contre, en matière de violence domestique impliquant une arme à feu, elles sont beaucoup, beaucoup plus touchées que les hommes. Donc on observe de façon évidente une surreprésentation massive des minorités raciales et des femmes parmi les victimes des homicides par arme à feu.
Mais en ce qui concerne les homicides, il semble que ce sont surtout des minorités qui sont les principales victimes. Par exemple, des personnes amérindiennes, des Noirs américains, des femmes.
Yes, African Americans in particular are overrepresented.
Oui, les Noirs américains sont surreprésentés parmi les personnes tuées par balle, notamment quand il s'agit de brutalité policière.
We are so ingrained to think that black men are a threat.
Notre société a tellement intériorisé l'idée que les hommes noirs sont une menace, que quoi qu'ils fassent, qu'ils aient leurs mains en l'air, les mains contre le corps, qu'ils soient entièrement nus, peu importe, il y aura toujours une personne blanche, le plus souvent, passant par là, qui va se sentir menacé au point de sortir une arme à feu et de tirer.
Et ça arrive encore chaque jour aux États-Unis, Cerise Maréchaux.
Oui, Emmanuel, et ce risque a complètement imprégné Millie Hoshing, jeune fille noire de 17 ans. Elle aussi est une rescapée de la tuerie du lycée de Parkland. En tant que noire, elle m'a raconté pourquoi elle est plus que les autres une victime potentielle et comment, un certain jour, elle a perdu son sentiment de sécurité à jamais.
Le jour où Trayvon Martin a été tué par balle.
Ici en Floride, here in Florida.
It was here in Florida, like
oui, en Floride, tout près d'ici, dans le comté de Miami.
He was walking in a neighborhood and a wannabe cop.
Il marchait dans le quartier et un agent de sécurité privée qui se prenait pour un flic l'a trouvé suspect, sûrement parce qu'il portait un sweat à capuche. Il rentrait juste d'un magasin où il avait acheté des bonbons et un iced tea. Le vigile l'a suivi jusqu'à chez lui, lui a demandé de s'arrêter. Trayvon ne s'est pas arrêté, alors il lui a tiré dessus.
After trial, we all thought that he was going to be guilty.
Au procès, on a tous pensé qu'il serait jugé coupable, qu'il ne pouvait pas s'en tirer comme ça, et pourtant si. Il a été jugé non coupable et ça nous a fait un choc, ça nous a réveillés. Moi, j'étais au collège à l'époque, je devais avoir 12 ans, et c'est là que j'ai réalisé que Trayvon Martin est mort à cause de la couleur de sa peau et que nous, les Noirs, on fait peur aux autres. C'est le dernier moment où je me suis sentie en sécurité. J'ai réalisé que quelqu'un pourrait me tuer pour la simple raison que je suis noire et qu'à leurs yeux, je suis forcément suspecte. Vous avez sûrement vu les vidéos de mes camarades de lycée qui ont filmé les corps après la tuerie. Mais pour moi, je ne peux même pas imaginer sortir mon téléphone sous les yeux d'un policier. Comment font-ils? Moi, je suis transi de peur. C'est ça ma réalité. Oui, parce que dans beaucoup de cas de brutalité policière, la victime met la main dans sa poche pour attraper son portefeuille ou quelque chose comme ça. Et l'officier croit qu'il s'agit d'une arme et tire, tue la personne qui est noire. Donc ce jour où on a été évacué avec les forces spéciales d'intervention qui nous tenaient en joue avec leurs armes, moi j'étais terrifiée. Vous savez ce qu'ils m'ont dit, mes copains noirs, quand on s'est retrouvés dehors? C'est moi qui levais les mains le plus haut. On venait de vivre cette tuerie terrifiante, mais ce qui nous terrifiait encore plus, c'était les policiers.
Que pensez-vous du mouvement tel qu'il existe aujourd'hui, principalement incarné par d'autres survivants, en majorité blancs, de Stoneman Douglas? Les solutions qu'ils demandent, qu'ils réclament, sont essentiellement des solutions liées aux lois sur la possession et le port des armes, et également inciter les gens à voter. Mais vous ne semblez pas convaincu par ces solutions?
Non, croyez-moi, je les soutiens à fond. Et je suis très fière de ceux qui sont à la tête de ce mouvement, vraiment. Et toutes les réformes qu'ils demandent sur la santé mentale, les vérifications à l'achat d'une arme, l'interdiction des fusils d'assaut, les chargeurs de grande capacité, toutes ces revendications sont des réformes absolument nécessaires et je les valide à 100%. Après tout, j'ai survécu à une tuerie de masse. Mais c'est vrai, je pense que le débat pourrait et devrait être plus sensible et plus inclusif. Car nous, les communautés noires, latino, amérindiennes, nous sommes depuis longtemps victimes de la violence par arme à feu, mais sous une autre forme. La violence par arme à feu, c'est une réalité multiple. Il y a de très nombreux suicides par balles et on n'en parle pas autant. Il y a aussi des crimes de haine contre des homosexuels ou des musulmans dont on ne parle pas assez non plus. Donc la violence par arme à feu, c'est multiple, c'est complexe. Et tant qu'on a cette plateforme pour en parler, nous devons parler de toutes ces dimensions. Parce que sinon, pendant qu'on se demande si on doit parler de ça ou plutôt de ça, des personnes sont oubliées et elles continuent de mourir.
Cerise Maréchaux, où en est aujourd'hui le mouvement des lycéens contre les armes à feu, ce fameux mouvement qui s'appelle maintenant March for Our Lives?
Ils sont en pleine tournée d'été dans tout le pays. Road to Change, la route vers le changement, c'est leur nouveau slogan. 75 étapes dans 20 États, principalement les bastions du lobby des armes à feu. Demain, 28 juillet, ils s'arrêteront d'ailleurs à Tallahassee, en Floride. Et politiquement, eh bien, ils se renforcent. Ils ont levé plus de 5 millions de dollars et ont désormais leur bureau et leur lobbyiste à Washington DC.
C'était un reportage de Cerise Maréchaux. À la mise en onde, Stephen Elsley. On se quitte avec une chanson emblématique qui dénonce la culture des armes, sortie tout récemment, This is America, de Childish Gambino. Allez voir le clip, on l'a mis sur notre page Facebook.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. On my Kodak. Black. Know that. Contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like Baka Blow.
America. Ooh, I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me.
Lundi, 7 milliards de voisins et toute la semaine prochaine, ne manquez pas notre série d'été, Vivre en ville. Des journalistes de RFI et d'autres invités nous racontent le quotidien dans une ville du monde. Lundi, donc, premier rendez-vous, vivre dans une ville encerclée, Kaboul, en Afghanistan.